vous ont entendu, qui ont entendu votre message, que vous cherchez l'amour. Vous avez 40 ans, vous avez vos enfants en garde alternée et qui pourront appeler le 09 69 39 10 11 et on se fera un plaisir si on a des appels pour vous de transmettre vos coordonnées. Je vous souhaite plein avec de bonnes plaisir. Choses, mon cher Romain.
Ouais, avec plaisir. Je vous laisse mon numéro. Vous l'avez déjà de toute façon.
Caroline. On l'a. Ah, Brigitte, elle dit dommage. Vous êtes très sympathique, mais je suis trop âgée pour vous. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au fait que vous êtes vraiment sympathique et qu'il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas l'amour. Je vous embrasse, Romain.
Eh ben, ça marche. Bisous à tout le monde et merci pour votre temps encore. Et
merci à vous.
Continuez et merci à RTL parce que c'est vraiment une super radio à toute heure.
C'est gentil. Merci, Romain.
RTL.
Belle nuit à l'écoute de RTL. Il est minuit. Quatre heures d'info avec Rachel Sadodine.
Bernard Pivot est décédé à 89 ans. Le journaliste, créateur et animateur de la mythique émission télévisée Apostrophe, écrivain, président de l'Académie Goncourt jusqu'en 2019. Il restera ce passeur populaire et exigeant, cher au cœur des Français. Les mots d'Emmanuel Macron pour saluer la mémoire de Bernard Pivot, dont vous retrouvez le portrait sur RTL.fr et l'application RTL. Des faits d'antisémitisme en hausse de 300% sur le premier trimestre 2024 par rapport aux trois premiers mois de l'année dernière, annonce de Gabriel Attal au 38e dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Le Premier ministre déplore 366 faits antisémites sur la période. La situation qui se tend à Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, bombardée après que l'armée israélienne ait donné l'ordre d'évacuer plusieurs quartiers en vue d'une offensive terrestre. Par ailleurs, Israël annonce envoyer prochainement une délégation auprès des médiateurs égyptiens et qataris. Décision qui fait suite à l'acceptation par le Hamas d'une proposition de trêve soumise par ces mêmes médiateurs. Deuxième jour de la visite du président chinois en France, Emmanuel Macron emmène Xi Jinping dans les Pyrénées. Lundi, les deux hommes se sont entretenus avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur fond de tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne. Emmanuel Macron a salué l'appel de la Chine à une trêve mondiale pendant les Jeux olympiques de Paris. Pékin, qui s'est aussi engagé à ne pas envoyer d'armes en Russie. Le tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, tagué au centre Pompidou de Metz. Une artiste performeuse franco-luxembourgeoise a revendiqué les faits. L'inscription MeToo écrite à la peinture rouge sur L'origine du monde. Le tableau était toutefois protégé par une vitre. Au total, 5 œuvres ont été taguées. Toutes sont en cours d'examen par le musée. Le football et cette folle victoire de Lyon à Lille en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Score final 4-3. Incroyable, hein, remontée de l'OL dans les dernières minutes. Lille reste quatrième au classement provisoire. La Ligue des Champions avec une soirée spéciale sur RTL. On vous fait vivre la demi-finale retour PSG Dortmund en direct dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Nicolas Jorgerot et Philippe Sansfourche pour un coup d'envoi à 21h. La météo avec un ciel encore instable, des averses sur un grand quart sud-ouest. Le temps est plus calme ailleurs mais parfois brumeux. Le soleil revient près de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Comptez 6 degrés à Charleville-Mézières, 9 pour Strasbourg et Limoges, 10 degrés à Bourges, Montpellier, Nantes et Paris, 12 pour La Rochelle et Pau. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 14, le 5, le 2, le 11, le 6, l'As et l'outsider de RTL, le 14, le central.
RTL, 24 heures d'info.
Jusqu'à minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Nous avons encore une demi-heure devant nous pour nous parler. Alors vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11 et peut-être aussi si vous le souhaitez pour dialoguer avec un auditeur ou si vous avez entendu Romain qui est dans la Moselle et qui aimerait bien rencontrer l'amour, bah vous pouvez nous laisser un petit message hein, sur le répondeur. Violaine et Paul sont toujours heureux de jouer les petits cupidons. En tout cas, ils transmettent toujours vos coordonnées, que ce soit d'ailleurs parce que vous avez trouvé quelqu'un sympathique, échangé amicalement, n'est-ce pas Paul, vous transmettez?
Oui, dans la limite du raisonnable, évidemment.
Hein, c'est-à-dire, c'est quoi la limite du raisonnable pour vous?
Ah non, je dévoile pas tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de messages pour Romain, il faut le savoir. Il y a Martine qui dit que vous avez besoin de faire un travail pour vous reconstruire et éviter de retomber dans le même piège. Mais en même temps, il y a plein de gens qui disent que, effectivement, Romain, vous avez une sacrée pêche. Oui. Gina, vous avez repris confiance, on dirait. Vous trouverez chaussures à votre pied, c'est sûr. Il y a Viviane qui dit vous êtes très sympa. Elle dit quoi ? Cracher dans l'assiette, mais c'est inimaginable. Et j'ai 66 ans, j'en ai entendu pourtant. Oui. Et puis il y a Nathalie aussi qui dit vous êtes très solaire. Soyez patient. Ne gardez pas les critiques dans votre esprit. Ne lâchez rien et respectez-vous. En tout cas, sachez que vos enfants connaissent votre valeur.
Et oui, et les enfants qui ont assisté à ces scènes, je suis d'accord. Enfin, on peut en vouloir à l'autre, parfois avoir un mot qui dépasse notre pensée, mais cracher dans une assiette, c'est très violent.
Jusqu'à minuit 30,
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent, mon numéro d'appel aux abonnés absents, mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurai jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante. Vendez mon cœur 3 francs 50. Tu savais si bien écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Je voulais te dire que je t'attends. Comme quelqu'un qui n'a plus personne, s'endort près de son téléphone et sourit quand on le réveille, mais ce n'était que le soleil. L'autre jour j'ai vu quelqu'un qui te ressemble, et la rue était comme une photo qui tremble. Si c'est toi qui passes le jour où je me promène, si c'est vraiment toi, je vois déjà la scène. Moi je te regarde. Je t'attends tout le temps. Ce soir.
C'est beau, le piano comme ça dans la nuit, la voix de Michel Jonas. Merci à Pascal Amiot, le directeur musical, de nous sortir des petites pépites comme ça qu'on a plaisir à retrouver. Je voulais te dire que je t'attends. Et si vous aimez Michel Jonas, eh bien vous pourrez retrouver toutes ses plus belles chansons dans son nouveau best-of intitulé « Les Essentiels, le bien nommé ».
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Ah, vous êtes amusant, il y a Bambi qui dit ben, on veut bien des invitations, nous, hein, pour l'union de Brigitte avec Romain. Je l'ai marieuse, Bambi. Hein, il est marrant, enfin, il est amusant parce que hop, il saisit la balle au bon. Et il a bien raison. Allez, on accueille maintenant Cathy. Bonsoir, Cathy.
Bonsoir. Vous allez peut-être mal m'entendre, hein, parce que j'ai un problème avec mon téléphone.
Oui, il y a beaucoup d'écho, il y a peut-être un haut-parleur.
Oui, c'est le problème, c'est que si j'enlève le haut-parleur, ça ne fonctionne pas.
Ah bon, sans haut-parleur, oui, votre téléphone ne fonctionne pas. Bon, oui. Ben, on va devoir faire avec alors.
Oui.
Le haut-parleur, il faudra peut-être changer de téléphone quand même. C'est pas vos oreilles, vous n'avez pas besoin du haut-parleur, c'est si votre sans haut-parleur, il marche pas.
Voilà, c'est ça.
Bon,
c'est ça,
oui. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave, on va se parler quand même.
D'accord. Je traverse une période très très difficile depuis le mois de décembre.
Oui, qu'est-ce qui vous arrive?
En fait, c'est une addiction. Des dépendances en fait des produits naturels, en l'occurrence une gélule de plante qui me soigne non seulement je prends depuis 15 ans.
Oui.
Et cette gélule a été arrêtée par l'entreprise.
D'accord. Et vous la trouvez
En supermarché. Non, d'accord. C'est des compléments alimentaires, ce qu'on appelle compléments alimentaires.
D'accord. Mais vous avez développé une addiction à ces compléments alimentaires?
Exactement. Ouais,
c'est pas banal ça. Parce qu'aux médicaments, il y a des addictions aux médicaments, voilà. Mais à un complément alimentaire.
Il y a de la caféine quand même dedans. Bon, c'est que des plantes, c'est du thé vert, du café vert et du guarana en fait. Donc c'est des plantes
en
caféine.
Mais que vous pouvez retrouver peut-être dans une autre formule. Parce que ce que vous décrivez.
Non. Oui, j'y cherchais, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que. Disons qu'il n'y a pas que le. Il n'y a pas que le physique. Je pense qu'il y a aussi une sorte d'effet placebo.
Oui.
Et que...
Je comprends. Si ce n'est pas le même...
Le fait que ça a marché sur moi, déjà, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, c'est une gélule. À la base, c'est une sorte de stimulant minceur. En fait, c'est des plantes qu'on prend, par exemple, quand on fait un régime, pour donner de l'énergie, vous voyez.
Oui, d'accord.
Et moi, en fait, j'avais des douleurs digestives.
Oui.
Depuis 1995, ça a commencé en 1995, pour laquelle j'ai fait une tentative de suicide, parce que c'est des douleurs qui sont extrêmement importantes. C'est des crampes d'estomac. Et moi, qui sont apparues 2 ans après, en fait, moi, je suis tombée anorexique très jeune, à l'âge de 11 ans,
oui.
Suite à des abus sexuels et des lourds secrets de famille.
Oui.
Et en fait, 2 ans, j'ai été hospitalisée pour anorexie avec des très mauvais traitements. C'est-à-dire que quand je refusais de manger,
oui.
On me mixait les plateaux avec 1 litre de lait et on m'ouvrait la bouche avec des pinces en fer. On mettait un tube, vous voyez, tout dans l'endoscopie, pour faire l'endoscopie. Mmh. Et on me mettait la mixture dedans.
Mais c'était à quelle époque, ça? C'était vous
Les années 90. Dans les années 90.
Ah oui.
Bon, c'est un hôpital qui a été quand même épinglé par Adinazan
Vous décrivez comme méthode.
Tout l'hôpital, il a été. Il y a encore, ça, c'est la pédopsychiatrie. Donc, les unités des adultes, c'est pire que ça. C'est des sévices.
Bah déjà,
quoi.
Ce que vous décrivez, oui.
Oui, c'est des sévices. Hein. Donc, j'ai développé 2 ans après des douleurs d'estomac, des crampes. Et j'ai cru que j'allais tomber dans la boulimie, en fait, parce que c'est comme des crampes de faim, mais de manière. C'est pas comblé par la nourriture. C'est-à-dire que Donc, on pensait au départ, c'était un ulcère, et bon, j'avais rien. Et comme on ne trouvait rien et que moi, je continuais à souffrir, j'ai pris 4 boîtes de comprimés. Je voulais vraiment mourir.
Mais vous étiez adolescente, alors ?
J'avais 19 ans.
Ah, d'accord.
18-19 ans.
Oui.
Et du coup, j'avais du retard à l'école parce que je n'avais pas été à l'école pendant 4 ans. En fait, moi, j'étais hospitalisée pendant 4 ans. De 12 ans à 16 ans. Et après, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que mes parents m'ont sauvée, mais ils ne m'ont jamais parlé, ils ne m'ont jamais demandé pourquoi tu as fait ça.
Et j'ai gardé tout... Vous me dites une anorexie suite à des abus sexuels. Ouais. Ils savaient, vos parents
Non, ils ne savaient pas.
Vous aviez été victime d'abus.
En fait, c'est mon cousin. Mon cousin, mais il y a des probabilités que ce soit mon grand-père aussi, parce qu'en fait, mon grand-père, moi, j'ai déclenché, j'étais abusée à l'âge de 9 ans par mon cousin, et j'ai déclenché mon anorexie un mois après que mes cousines aient été violées, et j'étais dans la même maison qu'elle. En fait, deux de mes cousines sur les 3 ont été abusées par mon grand-père, qui est aussi marié à ma tante, donc il y a des lourds secrets de famille.
Votre grand-père était marié à votre tante ?
Ouais, mon grand-père biologique était marié à la demi-sœur de mon père. Mmh. Et je l'ai appris justement ce mois-là, et ce mois-là, mon grand-père gardait mes cousines, mais il a abusé d'elles.
Grand-père paternel ?
Oui, mon grand-père paternel, oui. Il est marié à la demi-sœur.
Marié à la demi-sœur de votre père ?
Ouais, mais il a grandi. En fait, il a eu mon père avec. Je ne vais pas prendre tout le temps pour vous expliquer.
Non, mais je ne veux pas, vous faire. Oui, développer. Mais enfin, bon, déjà, il y avait. D'accord.
Il y a des incestes, voilà.
Oui, déjà.
Et on m'a dit que cet homme-là était mon grand-père biologique, ce que je ne savais pas. Et j'étais dans la même maison. Et moi, en fait, c'est possible que j'étais abusée par mon grand-père à un moment donné, mais que j'ai fini amnésie traumatique. C'est possible, je ne sais pas. Moi, ce que je me rappelle seulement, c'est mon cousin. Et bref, en fait, ce qu'il y a, c'est que mes parents, en fait, je suis dans une famille où on ne parle pas.
Oui.
Donc mes parents m'ont fait beaucoup de mal, m'ont hospitalisé, ils m'ont trahi, ils m'ont pas dit que j'allais être hospitalisée, ils m'ont fait ça derrière mon dos, je me suis retrouvée, je leur en ai toujours voulu.
Quand vous avez été hospitalisée pour votre anorexie ?
Oui, parce qu'ils m'ont menti, ils m'ont dit que je partais 15 jours à l'hôpital à Paris. Et que j'allais rentrer pour ma rentrée. Et ils savaient très bien que j'allais rester plus de 15 jours.
Mais oui.
Et ils ne me l'ont pas dit parce qu'ils savaient très bien que sinon, je n'allais pas accepter de partir.
Oui.
Donc, ils me l'ont fait derrière le dos. Et ça.
Alors, ils ne savaient peut-être pas comment faire. Et en même temps, si vous en êtes arrivé à une hospitalisation, c'est parce que vous aviez un poids extrêmement préoccupant et que c'était peut-être une question de survie. Non, je ne sais pas.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
J'étais petite, je faisais 1m42 et je faisais 29 kilos. Bon, c'était pas la mer à boire, je veux dire, y a pire que ça. Hein. j'ai fait en réaction à des secrets de famille, à des incestes.
Mais je comprends.
J'étais pas dans la volonté de maigrir.
Non, c'était. Oui, oui, bien sûr.
Maigrir. Et j'ai jamais eu de dysmorphophobie, par exemple, vous voyez. Ça veut dire que je me suis toujours vue telle que j'étais.
Vous avez quel âge aujourd'hui,
Cathy ? Maintenant, j'ai 47 ans.
47 ans ?
Oui.
D'accord.
Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que...
Et vous me parliez donc de cette dépendance où c'est un médicament qui vous aide, c'est dans les pertes, vous me dites dans les régimes, hein, c'est ça, pour vous aider à garder de l'énergie ? C'est-à-dire que vous contrôlez toujours votre nourriture ? C'est ce que vous m'avez dit.
Non, en fait, la gélule, je l'ai achetée au départ plus pour... parce que comme je suis mise tard, plus pour me donner de l'énergie, mais je n'ai pas de... J'ai pas de problème de poids.
Ah, moi, j'ai pas dit ça. Je dis que vous m'aviez parlé d'une gélule utilisée, si j'ai bien compris, dans les régimes pour conserver l'énergie. Voilà.
Mais moi, en fait, je l'utilisais pour mes douleurs d'estomac. Parce que j'ai vu. En fait, quand je l'ai acheté.
Vous avez vu un gastro-entérologue ?
Oui.
Bon,
il y a rien du tout. Ils ont fait tout, endoscopie, radio, il n'y a absolument rien Non. Et en fait, j'avais...
En même temps, au vu de votre histoire, on comprend qu'il y a des choses qui ne passent pas. Hein.
Oui, c'est
sûr. Et que ça vous torde le ventre. Enfin...
Mais oui, et ce qu'il y a eu, c'est que, disons que jusqu'en... En fait, ces douleurs-là sont durées. C'est-à-dire qu'après, moi, je suis partie à l'université. Et pendant toute mon université, j'avais des douleurs. J'ai raté toutes mes études. Parce que j'ai pouvais plus me concentrer parce que j'avais mal constamment, c'est des douleurs non-stop. Donc, du coup, après, je suis partie chez mes parents. Bon, les relations n'étaient pas bonnes. J'ai perdu 10 kilos en un an. Mon père a voulu me tuer une fois. J'ai fui chez moi.
Votre père a voulu vous tuer ?
Ah oui, oui, parce que mon père, il est violent. Il est ultra violent. Et que quand il... En fait, il était tellement inquiet pour moi qu'il a voulu me frapper jusqu'à temps que je meure, en fait.
Ah ben, il a une curieuse façon de manifester son inquiétude.
Bah, il est comme ça, il frappe, et ma mère, il a frappé toute mon enfance. Donc, j'ai grandi avec mon père qui frappait, ma mère, qui la prenait, qui l'amenait sous la douche, qui lui mettait la tête sous la douche. J'ai grandi comme ça, dans un climat d'insécurité. C'est pour ça que la gélule, pour moi, elle m'apportait de la sécurité.
C'est incroyable. Enfin, vous voyez, c'est incroyable, non. Mais vous dites comme si cette gélule, vous parliez d'effet placebo. Comme si c'était la gélule, dans ce que vous décrivez, les abus sexuels, la violence dans laquelle vous avez, la violence sexuelle, violence physique, et ce sentiment d'insécurité dans lequel vous avez grandi. Ouais. Et vous me dites là, cette gélule m'a porté ma sécurité. On voit, c'est-à-dire que vous avez doté cette gélule de pouvoirs quasi magiques.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que même sa magie, c'est vraiment sur les douleurs. Et il n'y a que ça. Quand j'essaye d'autres gélules, ça ne marche pas.
Et vous avez essayé un peu de parler, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, et c'est, vous appelez ce soir, c'est votre corps qui s'exprime, beaucoup. Il y a quelque chose aussi, la douleur, qui, à travers cette douleur qui se manifeste dans votre corps, c'est une douleur qui demande à s'exprimer.
Oui. Et puis, c'est ce que, disons que là, je suis vraiment, disons pas en dire en danger, mais physiquement, c'est-à-dire que moi, je m'étais, les douleurs en sont restées jusqu'en 2001, c'est bizarre. Oui. Et 2002, après, j'ai pris 15 kilos, je suis partie dans une brigade religieuse, j'ai pris 15 kilos en un an. Et après, je suis partie à Paris pour travailler. Oui. Et là, je me suis complètement coupée de mon milieu, je me suis complètement coupée de mes parents, de ma famille. Je commence à travailler.
Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Là, je ne travaille plus. Maintenant, je suis reconnue handicapée. Je suis reconnue. Et je travaillais, j'étais dans le cadre d'un emploi jeune. Je travaillais dans un hôpital. Je m'occupais, en fait, de la bibliothèque.
Oui.
Et je donnais des cours de français à des sans-papiers.
D'accord.
J'étais hospitalisée.
Oui.
Et en fait, là, à partir de ce moment-là, même au niveau du poids, bon, j'avais pris du poids, bon, j'ai commencé à avoir mes premières règles, alors que j'ai eu mes règles à 26 ans. J'ai eu mes règles à 26 ans.
Mais oui, c'est classique dans les anorexies. Le premier signe, c'est l'arrêt des règles.
Je ne les ai jamais eues, parce que j'ai commencé à l'âge de 11 ans.
Oui, tout à fait. Vous alliez mieux, vous travailliez, vous aviez un petit ami, me dites-vous.
Oui, je pense que c'est venu, les règles sont venues avec mes premiers rapports sexuels, c'est très bizarre en fait. Et pour moi, c'est pas question de poids parce que c'est des fois
ça joue quand même aussi
un petit peu, mais pour moi, c'était je pense que j'avais fait un blocage.
Mais vous aviez là enfin quelqu'un, vous aviez franchi ce cap de pouvoir avoir une vie sexuelle.
Oui, et puis disons que ça allait bien, on va dire jusqu'en là, j'avais pas besoin de gérer quoi que ce soit, j'avais plus ces douleurs de ventre.
Et alors le problème, Cathy, je vois, il est minuit 23 et vous savez, l'émission s'arrête à minuit 30. Je voudrais pas que vous raccrochiez en vous disant que vous n'avez pas pu me dire tout ce que vous aviez à me dire. Votre problème, pour essayer un peu de recentrer, c'est donc vous ne trouvez plus cette gélule, vous avez développé une dépendance.
Alors pour l'instant, je suis en médiation avec. En fait, j'ai essayé d'expliquer la situation. À l'entreprise, quand je ne peux pas la nommer, je n'aime pas. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de comprendre. J'ai eu une dame d'un laboratoire de plantes qui a essayé de plaider ma cause pour expliquer que j'avais des douleurs chroniques, que ce n'était pas du confort ou quoi que ce soit, c'était vraiment des douleurs chroniques que j'avais. En même temps, on ne sait pas ce que j'ai, donc c'est peut-être quelque chose, donc on ne trouve pas.
J'imagine qu'on a fait des examens. Vous me dites, vous avez vu un gastro-entérologue.
Il n'y a rien.
Bon, aux examens, ils n'ont rien vu. Voilà.
Voilà. Après,
il y a quelque chose. Votre parcours en témoigne. Vous le dites d'ailleurs. Ça a été un cri du cœur. Cette gélule, c'était la sécurité. Bah, elle vous procurait. C'est le ventre qui parle. C'est pas n'importe quoi, Cathy.
Oui, c'est le cerveau.
Non, c'est pas le cerveau, c'est le ventre. Oui, enfin, c'est le deuxième cerveau. Mais vous avez été touchée, là. Non. Enfin, c'est là que. Vous savez, parfois, la douleur morale, elle peut pas s'exprimer. Mais le corps, lui, il se souvient de tout. Il a tout imprimé, le corps. Il a imprimé toutes les violences qui vous ont été faites. Et peut-être que cette douleur, elle dit quelque chose.
Mais là, le problème, c'est que j'ai eu tellement un traumatisme. En fait, j'avais déjà 2021, je suis déjà dépendante. En fait, ils ont arrêté en 2021.
Oui, oui.
Mais moi, j'ai fait du déstockage. J'ai acheté des stocks. Et
mais il y avait une émission hier sur Arte, je vous interromps, hein, mais il y avait une émission sur Arte, très tard dans la nuit, mais qui était passionnante, un peu sur les neurosciences, et sur l'effet placebo des gélules, et sur le fait que notre cerveau, selon la... il imprime, ça marche bien, parce que si il pense qu'un médicament, même si c'est un placebo, a le pouvoir de nous guérir, eh bien, c'est cette petite pharmacie interne qu'on a dans notre cerveau, et donc cette capacité fabuleuse d'auto-guérison. Donc, je vous crois totalement que, c'est-à-dire, sans cette gélule, vous êtes perdu. Mais est-ce que c'est pas le moment venu, parce que j'entends toutes les démarches que vous faites d'écrire au labo, mais pour ça, il faudrait que vous soyez très nombreux, il y a des enjeux qui vous échappent, si. Mais de cette sécurité qui vous fait tant défaut. Est-ce que vous pourriez pas être un peu pouvoir en parler avec des mots, mettre des mots sur cette douleur là qui est là au creux de votre ventre depuis toutes ces années, qui vous dévore.
Disons que je l'avais plus, vous voyez, je l'avais plus. Avec
vous l'aviez plus.
Mais depuis que ça a arrêté, je le revis, mais de manière, en fait, je revis les douleurs que j'ai connues en 95.
Ben voilà.
Et comment ça s'est soldé en 96 ça s'est soldé par une tentative de suicide.
Bon, alors il faut pas en arriver là, Cathy. Il faut demander une aide. Et... Parce que.
C'est que là, je me sens tellement dans une insécurité que je me dis à tout moment, ça va partir.
Ben non. Donc il faut que vous soyez aidé. Il faut que vous soyez aidé. Il faut que. Justement. Pour ne pas recommencer et basculer, puisque vous avez peur un peu de vous-même, que la douleur vous fasse vaciller, quitte à être, il faut aller voir en disant je souffre intensément. Il y a votre histoire qui vous fait souffrir. Et d'abord, il existe des antidouleurs qui pourraient vous soulager aussi physiquement. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que vous puissiez parler de vous, de votre parcours, mettre des mots sur cette douleur qui demande à être entendue. Et il existe des antidouleurs qui pourraient vous soulager. Et vous pourriez vous rapprocher d'un centre antidouleur, des centres de prise en charge de la douleur chronique.
J'ai eu des centres antidouleurs quand j'ai eu des
en tout cas, pour ne pas, puisque vous redoutez, vous me parlez de douleur et aussi d'insécurité qui vous envahit.
Je pense que l'insécurité, c'est pas les douleurs, fulgurantes, on va dire. C'est pas des choses qui m'empêchent de vivre.
Vous me parlez à la fois d'un plan physique et d'un plan moral.
C'est surtout c'est-à-dire que quand je pense à, si je regarde une vidéo que j'ai pu regarder il y a 5-6 mois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une cassure. C'est-à-dire que la personne que j'étais il y a 6 mois, c'est plus moi. Et quand je pense à mes souvenirs, et moi je sais que là, le moment où ça me fascine, comme j'en ai eu, c'est que quand je commence à regarder la vie des gens et à imaginer leur vie et à plus vivre la mienne.
Ça, là, bon, vous avez besoin d'aide là à nouveau. Il faut que vous soyez accompagné et psychologiquement et aussi par rapport à cette douleur qui se manifeste. Il faut que vous voyez quelqu'un, il faut que vous voyez un médecin. Vraiment, ne restez pas seul. Ben, repartir à nouveau, en tout cas être à nouveau accompagné. C'est mieux de parler qu'à un moment que la douleur vous submerge et que vous tentiez de mettre fin à vos jours. Vous avez quand même tout un parcours où vous avez survécu à beaucoup de choses, donc ça en vaut la peine. Je dois vous laisser, Cathy, parce qu'on arrive à la fin de l'émission et j'entends que vous avez beaucoup de choses à dire. Il faut que vous trouviez quelqu'un pour le dire. Bon courage à vous, prenez soin de vous.
D'accord.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Un mot pour vous dire, hein, pour vous rappeler qu'il y aura du football ce soir. Match retour PSG Dortmund, que vous allez vivre avec l'équipe des sports en direct. Et puis, il y aura des commentaires. Peut-être, on ne sait pas, nous on est là, en principe, de 23h30 à minuit et demi. S'il y a des prolongations et que ça va jusqu'à minuit, eh bien, nous nous retrouverons mercredi. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça dépend du match. Donc, peut-être à ce soir, je l'espère. Et sinon, à mercredi. Je vous embrasse, bon match, que le meilleur gagne.
De passer la nuit à l'écoute de RTL.
Tout de suite, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Entrer dans l'Histoire, la quotidienne, la chronique matinale de Laurent Deutsch. Tous les jours à 7h20.
Bonne nuit et bonne écoute.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Amandine, bonjour Yves.
Il y a 70 ans, au mois de mai 1954, les forces françaises retranchées dans la cuvette de Dien Bien Phu au Vietnam s'apprêtait à céder devant les attaques du Viet Minh.
Eh oui, la bataille faisait rage depuis presque deux mois et les troupes d'Ho Chi Minh harcelaient les bataillons français. C'était l'aboutissement d'un long processus. Dès 1945, le Viet Minh, ce mouvement nationaliste fondé par le Parti communiste indochinois, avait pris le contrôle d'une grande partie du territoire vietnamien et il ne lui restait plus qu'à se débarrasser des dernières forces françaises. Les Viet Minh ont donc attaqué Dien Bien Phu avec des canons chinois transportés par des véhicules soviétiques. L'Indochine française vivait ses derniers instants.
La présence française en Extrême-Orient était déjà ancienne. Hein.
Alors ce qu'on a appelé l'Indochine regroupait en fait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Cet empire colonial a connu ses heures de gloire quand le Second Empire exploitait là-bas l'arbre à caoutchouc, le minerai ou le riz tout en construisant d'imposants bâtiments administratifs. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Cambodgiens racontent que le palais royal de Phnom Penh a été bâti avec les restes du chantier de l'Opéra Garnier à Paris. Une légende urbaine sans doute, mais qui montre bien le souvenir toujours vif de la présence française.
Bon, ce qui est sûr, c'est que tout ça a pris fin à Dien Bien Phu dans un affrontement terrible. Hein.
La cuvette de Dien Bien Phu, c'était la boue, le sang, les cris. Mais de ce drame ont émergé deux figures inoubliables qui ont apporté aux blessés des deux camps un souffle d'espoir. Deux sentinelles de générosité et de courage qui n'ont cessé de veiller sur les blessés et qui ont distillé un peu de réconfort dans cet océan de souffrance.
Deux figures en fait devenues légendaires.
Je vous présente le médecin commandant Paul Grovin, surnommé le Toubib, et son infirmière Geneviève de Galard, l'ange de Dien Bien Phu. Quand le docteur Grovin est arrivé à Dien Bien Phu pour tenir l'antenne chirurgicale quelques semaines avant la bataille, un vieux briscard qui avait connu les tranchées de la Première Guerre mondiale l'avait prévenu « S'il y a une grosse bagarre ici, mon vieux, vous ferez un recul de 40 ans et vous n'en sortirez pas. »
Mais pourquoi a-t-il fait ce sombre pronostic ?
Bien parce que l'antenne chirurgicale de Dien Bien Phu, c'était des salles mal équipées, avec du matériel dérisoire. Et quand la grosse bagarre a été déclenchée le 13 mars, le docteur Grovin a opéré les blessés avec de la boue jusqu'au mollet et la cigarette aux lèvres. Il fallait fumer pour chasser l'odeur du sang et de la mort.
C'est Verdun sous les tropiques.
Ah oui, l'enfer. Pendant deux mois, sous un déluge de bombes, il a opéré plus de 4000 combattants, aussi bien français que vietnamiens, dans des conditions atroces, avec des scies pour amputer et pas de médicaments, même pas d'eau potable. À ses côtés, nous avions donc Geneviève de Galard, une jeune volontaire de 28 ans, la seule femme sur place, qui passait tout son temps à réconforter les blessés, à les soutenir. Elle accomplissait cette tâche impossible d'aider les mutilés à surmonter leur douleur.
Prochain rendez-vous avec Laurent Deutsch, tout à l'heure à 7h20 ou dès maintenant en podcast sur rtl.fr et l'application RTL. Et tout de suite, on rit ensemble avec l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonne nuit à l'écoute de RTL.
Cher Philippe, Nabil Boudi, avocat de la famille de Naël, est donc resté pour votre chronique.
Et bonjour Nabil, vous êtes donc avocat, vous avez grandi dans un quartier sensible. Nabil, vous vous appelez donc Nabil, on vous donne la parole, on vous appelle maître. Pas de doute, nous ne sommes pas sur CNews ce matin. Alors, je ne peux malheureusement pas, Yves, dire du mal d'un invité d'origine algérienne, rapport à ma colocataire depuis 17 ans. Certains utiliseront le terme abusif de compagne, toujours sous OQTF, mais vous connaissez les lenteurs de l'administration française, vivement 2027, que ça dégage tout ça. Nabil, vous avez une réputation d'avocat incisif, rentre dedans, vous êtes un Dupont-Moretti berbère, un Jacques Vergès de la street, un Robert Badinter du terre-terre. Nabil, vous êtes devenu avocat sans passer le bac. Alors je précise quand même pour les plus jeunes qui nous écoutent, cette cascade a été réalisée par un professionnel. Ne reproduisez pas ça chez vous. Alors en apprenant que vous n'avez pas le bac, c'est vrai que ça m'a donné un espoir. Gaspard, je me suis dit, Filou, si tu voulais, toi aussi, tu pourrais devenir dès demain un ténor du barreau. Et puis j'ai vu que vous avez quand même une licence, un master en droit pénal, et je me suis dit, Filou, tu resteras un génie du micro, et c'est déjà pas si mal, en fait. En interview, Nabil, vous citez trois personnalités que vous aimeriez rencontrer. Mohamed Ali, Churchill et Zidane. Vous auriez pu dire Yves Calvi, Amandine Begaud, Cyprien Sini ou Marina. Mais c'est honnête de votre part. Il s'en branle d'être là ce matin.
Nabil Bouddi est un avocat reconnu, mais il a été aussi, ce n'est pas commun, joueur de football professionnel. Mais
c'est fou ça. Nabil, c'est un peu l'enfant d'Éric Dupond-Moretti qu'il aurait eu avec Kylian Mbappé. Ah bon, ou Gisèle Halimi avec Michel Platini.
Génétiquement,
c'est plus possible Gisèle Halimi, c'est mieux Gisèle. Vous avez des clients enfermés en Arabie Saoudite, en Turquie, en Irak, en Syrie. J'imagine qu'il doit y avoir quelques honoraires de retard. Mais la téléconsultation, ça a dû vous changer la vie quand même. C'est obligé d'aller à Damas à chaque coup. Bon, Nabil... Plus sérieux, vous êtes l'avocat de la famille de Naël, ce drame terrible qui n'est pas le sujet qui vient en premier quand on demande aux abuseurs leur sujet de prédilection. La mort de Naël passe très loin après les engueulades de coupe chez Ikea, les flatulences en ascenseur et bien sûr Anne Hidalgo. Et les flatulences d'Anne Hidalgo, bien sûr.
On
peut mixer les trois.
Bon, écoutez, on se rappelle de la cagnotte solidaire créée par le désormais candidat de Reconquête, Jean Messia, pour le policier.
Oui, alors l'extrême droite a donc fait rimer qui veut gagner des millions et fait entrer l'accusé. Avant le verdict de la justice, demain il faudra peut-être gagner une villa avec piscine à Jonathan Daval, une croisière dans les Cyclades à Monique Olivier. Alors on a tous croisé des policiers, on a tous pu constater qu'il y en a des formidables. Il y a Abdoulaye Kanté qu'on salue, qui nous écoute. Il y a des mecs dévoués à leur tâche, empathiques, j'ose le mot, intelligents. Oui, il y en a. Absolument. Et puis il y en a. On a aussi pu constater qu'il n'y avait pas que des intellectuels et des armes dans certaines mains deviennent dangereuses. Prenez les académiciens français, par exemple. Mais ils ont tous une épée. Il y a très peu de blessures par arme blanche sous la coupole. Jean d'Ormesson n'a jamais tenté d'embrocher Alain Decaux pour avoir fini les frites ou draguer Hélène Carrère d'Encausse. Tu vois, vous connaissez l'expression « il faut bien que jeunesse se passe », encore faut-il qu'elle puisse se passer et qu'elle ne soit pas arrêtée par la violence de notre société, d'un autre jeune, d'une autre bande ou d'une interpellation policière. Naël a fait des conneries comme 98% des ados. Des petites, des grosses, là c'était des grosses. C'est quoi l'âge bête chez l'ado? C'est 12-19 3-45 ans chez le garçon. Et si Naël avait rencontré, lors des premières bêtises, l'autorité parentale, l'autorité de notre société, ou d'un grand frère, ou une main tendue, ou un modèle, ou une passion qui le sorte de la misère sociale, bref, n'importe quelle raison pour ne pas faire le con au volant de cette bagnole, il sera encore là. Et aujourd'hui, on aurait parlé de foot, ça aurait été beaucoup plus sympa.
Dites-moi, à propos de main tendue, on va parler de celle d'Éric Zemmour ce week-end sur le marché d'Ajaccio. Éric Zemmour a frappé une femme qui lui avait lancé un œuf.
Oui. Ah bah oui, on était obligés de cette musique. Après Kennedy à Dallas, Zemmour à Ajaccio. Alors, même si lui, JFK, a eu au moins la décence de ne pas répliquer, c'était élégant de sa part. Oui. Alors, j'ai vu l'image de la réplique d'Éric au ralenti, et puis après, je me suis rendu compte que c'était à vitesse réelle. Mais pas sur un gros niveau de MMA, chérie. Non. Il est plus proche de Jean-Claude Gus que de Benoît Saint-Denis. J'ai eu l'impression d'entendre Thierry Lhermitte dire « Pense à ta licence, Éric, ils vont te retirer ta licence. » Il doit être ceinture blanche, Riri, c'est sa couleur préférée aussi. Riri, on lui a donc donné un coup de poing dans l'eau. Alors, la femme n'a rien. Par contre, Éric s'est luxé l'épaule, il a trois doigts cassés. Il est fragile, notre Rico. C'est une petite porcelaine de Limoges xénophobe.
Bon, dites-moi, on doit en arrêter là.
À tout à l'heure.
Ben oui, à tout à l'heure.
Oui.
8h40.
Merci d'être resté avec nous, maître Nabil Bouddi. Bonne journée, bon travail.
Merci.
L'œil de Philippe Cavrivière, c'est tous les matins à 7h55 sur RTL et à tout moment en podcast sur rtl.fr et sur notre application.
Et dans un instant, RTL vous propose d'écouter un épisode de Tout savoir sur, le podcast quotidien de la rédaction. A tout de suite.
On the blind side, down the back ways, the roots of service call. When you can't get what you need, you feel like taking a toss to it all. Make a better man. You can feel the darkness rise. Sometimes you don't know what you're fighting for. You don't know who it is you despise. I am the hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of fools. I'm the renegade in this great time. I'll do what I think to bring a godly man down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep while the shepherds sleep. I do anything to bring a government down.
a star-spangled Cadillac. He picked a rodeo queen with whiplash marks all over his back. When dreams don't become their people, people become their dreams. He didn't understand at the time, but now he knows exactly what it means. This great town, I'll do anything to bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep, while the shepherds sleep. I'll do anything to bring a government down. They say, watch out, boy, be careful where you tread. You're throwing away all that beautiful bread. I slipped outside till the world opened up. They got to understand, he's a hallelujah man. I am the hallelujah man. And I'll do anything to bring a government down. He built himself a prison, and knew he had to escape. Some are held together by steel, some are held together by cellotape. He watched tripped in through the shark's teeth. He always paid his dues. Something told him they had nothing, and that's when he knew we had nothing to lose. He says, I am the hallelujah man. Break all the rules, I'm the king of fools. I'm the renegade in this great town. I'll do anything to bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep, but while the shepherds are doing our thing to bring a government down. I am the hallelujah man. Break all the rules, I'm the king of fools. I'm the renegade in this great town. I'm doing our thing to bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep, but while the shepherds speak, I'm doing our thing to bring a government down. The hallelujah man, I am the hallelujah man, I am the hallelujah man, and I'll do anything to bring a government down. I am the hallelujah man, I am the hallelujah man, I am the hallelujah man, and I'll do anything to bring a government. When dreams don't become their people, people become their dreams. When dreams don't become their people.
Tout savoir sur.
Bonjour, c'est Mathias Luguin. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tout savoir sur, le podcast de la rédaction de RTL. Cette fois, échauffement de rigueur, puisque la WWE, la plus grande fédération de catch au monde, est de retour en France. Pour la première fois, c'est 3 et 4 mai 2024, depuis la LDLC Arena de Lyon Décines. Elle proposera deux soirées événements retransmises à la télévision dans le monde entier. Le show hebdomadaire du vendredi, SmackDown, et le lendemain, Backlash, d'une toute autre envergure. On vous explique tout une fois sur le ring.
Welcome to WWE Backlash. Oh, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble. I've been here before.
War, la guerre, cette musique officielle de Backlash 2024, Backlash France donc. Et à cette évocation, j'ai presque l'impression de voir quelques étoiles dans leurs yeux. Christophe Ajus, Philippe Chéreau, les voix de la WWE dans notre pays depuis presque 25 ans. Bonjour messieurs, je suis ravi de vous revoir en studio.
Bonjour Mathias, toujours heureux de te retrouver.
Bonjour Mathias, on est ravi que tu nous accueilles une nouvelle fois.
On vous retrouve chaque mercredi, chaque samedi, 20h55 sur la chaîne AB1. Et puis, connecté depuis son sud, depuis Nice précisément. Tom Larufa, bonjour à vous.
Oh oui, Mathias, écoute, tu me vouvoies maintenant ?
Faut qu'on ait l'air sérieux, Tom.
Ah, écoute, bah, on peut être sérieux en se tutoyant. Écoute, on se connaît. Tu étais venu voir un show en région parisienne il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. On avait fait connaissance et j'avais très apprécié le fait que tu prennes le catch très au sérieux.
Et je me suis fait surtout un petit peu bousculer sur le ring, hein.
C'est vrai, mais pas par moi, parce que moi, tu te serais pas relevé si c'était avec moi.
Tom Larufa, grand catcheur professionnel français depuis 17 ans. Vous avez combattu pendant 5 années aux États-Unis, dont 4 à la WWE, et puis bien sûr dans le reste du monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, balayons d'entrée, hein, quelques clichés pour que vous soyez pour une fois épargnés. Le catch, ce sont des combats scriptés qui ponctuent des rivalités romancées, mais avec de vrais athlètes qui mettent leur vie en jeu dans le ring au nom de la beauté du spectacle.
Standing ovation.
C'est très bien dit. Bravo Mathias.
C'est magnifique.
Ça change de tous vos collègues journalistes qui encore aujourd'hui se permettent de dire « Alors, c'est du chiqueux ».
Vous en avez pas marre de répondre à ces questions?
Ça prouve que les journalistes ne font pas leur boulot parfois quand ils viennent faire des interviews.
Tom, vous aussi on vous pose la question.
En effet, très belle définition, presque complète. Je rajoute juste un dernier truc. Tu as dit que les catcheurs font ça, se donnent à fond, mettent leur vie techniquement en jeu pour la beauté du spectacle, mais aussi pour les fans. C'est très important. Parce que sans le public... Nous, on ne serait pas là. Très souvent, c'est pour cette alchimie qu'il y a entre les catcheurs et le public qu'on se donne à fond et qui, justement, l'énergie de la foule nous permet de dépasser nos limites.
On va y revenir, justement. C'est vrai qu'on connaît, hein, évidemment, la version américaine du catch. Mais Christophe Ajus, la France, elle n'est pas en reste. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les balbutiements du catch chez nous? D'où ça vient?
L'histoire est très vieille, entre guillemets. Ça a commencé dans les foires. C'était déjà le cas, d'ailleurs, dans le reste du monde. Le catch vient des foires. On appelait ça la baraque à lutte. Avant, avec un lutteur qui venait affronter les spectateurs. Et puis petit à petit, les organisateurs se sont rendus compte que les gens du cru, qui se battaient pour de vrai, étaient dangereux pour leurs lutteurs. Donc ils ont commencé à se dire, ça serait pas mal qu'on ait un complice dans le public. Donc on va prendre quelqu'un dans le public qui sera notre complice et qui va dire, ouais, je suis du coin, je vais m'occuper de votre lutteur. Et donc chaque soir, dans chaque ville différente, le complice gagnait, mais en gardant l'intégrité physique du lutteur. Et donc, petit à petit, c'est sorti des foires, c'est allé dans les salles. Et effectivement, en France, notamment dans l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, ça a été l'un des sports les plus populaires en France, notamment à la télévision, avec des grands combattants que Philippe Chéreau a connus. Hein. Vous aviez déjà une trentaine d'années à l'époque. L'Ange Blanc, le bourreau de Béthune, l'affreux de la porte.
Oui, le chéri Bibi.
Ben Chimoul.
L'injustice immanente veille. De la porte se fait coincer par l'arbitre, je veux dire disqualifié. Et l'Ange Blanc, avant de reprendre son vol, effleure la face du méchant de la caresse du pardon.
C'est vrai qu'en plus, juste après guerre, il y a eu un engouement parce que, en effet, on retrouvait l'esprit combatif d'après guerre et parfois aussi les rivalités franco-allemandes, mais de manière beaucoup plus, on va dire, saine. C'est-à-dire qu'on pouvait dire facilement tue-le, sachant qu'il n'allait pas le tuer pour de vrai. C'était un exutoire. D'ailleurs, ça a été souvent un sujet assez étudié au niveau psychologique. Certains ont fait des
essais. Roland Barthes
a fait,
sociologue réputé, qui effectivement en a parlé.
C'est comme les jeux, c'est comme les jeux romains en fait. On était vraiment dans une gestion de l'exutoire et c'était extrêmement populaire. Ça l'est encore et quelle que soit d'ailleurs la classe sociale. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça réunit vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, c'est même intergénérationnel en ce qui nous concerne, puisqu'il n'est pas rare de voir chaque fois qu'on croise des fans, d'entendre ces mots. Ah, je vous suivais quand j'étais petit, donc déjà on se prend un petit
coup de vieux, surtout vous.
Un petit scud par rapport à ça. Et aujourd'hui, je suis avec mon fils, avec ma fille, et c'est une façon de partager. Ils le faisaient déjà certainement avec leur père ou leur grand-père, et maintenant ils le font avec leurs enfants. Donc ça me touche beaucoup quand j'entends ça.
On parle de catch français, mais il faut dire que au Japon, au Mexique, la discipline c'est presque une religion. Alors pourquoi ce sont les Américains qui ont un petit peu pris le lead?
Parce qu'ils sont très forts en business.
Le sens du spectacle, l'entertainment. Je crois qu'on n'a pas de traduction valable de ce mot en France.
Le divertissement,
oui, mais ça représente pas forcément ce qu'est l'entertainment à l'américaine. Mais c'est surtout ça, effectivement, le sens du spectacle des Américains, avec une grosse mise en scène, un petit peu comme Hollywood a pris le pas sur le cinéma mondial.
À l'origine, aux États-Unis, les fédérations, en fait, c'était des territoires. Donc, en effet, c'était des choses qui étaient télévisé, mais de manière régionale, enfin à la hauteur des États-Unis. C'est la famille McMahon, en fait, qui a réussi à regrouper les territoires, à prendre des risques et à en faire quelque chose d'énorme, en intégrant des stars du pop-rock, en s'associant avec MTV, qui émergeait au niveau de la télévision. Et les gens de MTV ont dit, ouais, en effet, on va s'associer à cette fédération. Et avec les bons partenaires, et en profitant, en effet, de cet élan du clip vidéo MTV, tout le monde, en fait, était à la mode. Et là, pour une fois, le catch est devenu simple. sympa, est devenu à la mode, est devenu rock'n'roll. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Puis après, ben voilà, le business, comme on disait, la gestion, ça, ils savent super faire. Puis c'est pas les mêmes enjeux économiques que chez nous en France.
Ouais.
Nous, quand on est content d'avoir, d'avoir 1 million de téléspectateurs, eux, ils en ont 10, 15, 20, 60, quoi.
Mm-hmm. Tom Larufa.
Je tiens de façon très prononcée à souligner que Henri Deglane, lutteur champion olympique de lutte gréco-romaine dans les années 20, était devenu un des premiers lutteurs-catcheurs à faire carrière aux États-Unis, donc avant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est un catcheur qui était très connu aux États-Unis, ultra respecté, et qui a participé au développement du catch outre-Atlantique. Et pourquoi pour moi c'est un nom très important,
c'est mon grand-père.
Ah, presque.
De cœur, en tout cas.
Il a fondé le Lutte Club de Nice, qui est un des clubs de lutte les plus anciens de France, où j'ai commencé par la lutte libre et la lutte gréco-romaine, avant de me lancer dans le catch.
Et Tom, j'allais justement te poser la question. Tu l'as dit, tu es niçois d'origine. Comment est-ce qu'on fait pour gravir les échelons et pour arriver dans la plus grande fédération de catch au monde? Comment ça se passe?
Voilà, une alliance entre le travail et la chance. Parce que tu peux travailler le plus dur possible. Si tu n'as pas l'opportunité qui se présente à toi, bah, tu n'auras jamais ce break, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cette opportunité de percer. Pour la chance, par contre, la chance, tu la provoques. Donc, pour faire simple, il faut s'entraîner dur, il faut voyager, il ne faut pas avoir peur de, justement, malheureusement, quitter la France. C'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé apprendre au Canada le catch, et après, je suis allé catcher à droite à gauche pour faire des connexions. Mmh. Et en fonction de ça, si tu es bon à ce que tu fais, si tu es passionné et que tu bosses dur, tu vas avoir un niveau pour petit à petit te faire repérer de plus en plus, catcher à droite à gauche dans plein de pays. Et si tu fais les choses correctement, tu vas taper dans l'œil des recruteurs de la WWE, vu que là on parle de ça, et ils te fileront des essais. Et si t'es bon, tu transformes l'essai.
Donc toi, tu l'as été bon, puisque tu es resté 4 ans en contrat avec la
Je le suis toujours, attention.
Prends des risques, Mathias.
Faites gaffe, parce que c'est un niçois, il raconte des salades.
Tom, à quoi ça ressemble la vie d'un catcheur de la WWE?
Tu t'entraînes limite 7 jours sur 7. Tu fais gaffe à ta diète pour rester toujours dans une condition physique et surtout une apparence physique esthétiquement assez propre pour passer à la télé internationalement, ça c'est très important, mais il faut aussi garder la condition physique et éviter les blessures, il faut travailler ton catch, enfin c'est un truc, tu vis dans une bulle 24 heures sur 24, si bien évidemment t'es sérieux et que tu veux rester au top. Après, ça arrive que des mecs, tu sais, ils se fassent signer, après ils relâchent un peu, et ben, très rapidement, ils commencent à disparaître des ondes hertziennes, je sais pas si tu dis ça aux États-Unis, et ils tombent aux oubliettes et ils se font virer, tu vois. Donc c'est vraiment... Et en fait, il faut être prêt à faire tous les sacrifices.
Et à côté de ça, c'est la vie d'artiste, c'est une vie de nomade aussi.
Alors oui, mais artiste sportif. C'est ça en fait qu'il y a de magique dans le catch, c'est que, comme on disait tout à l'heure, tu sais, la question classique, ouais, mais alors c'est du cinéma ou quoi? Non, c'est scripté, il y a des scénarios, mais c'est des scénarios qu'on met en scène physiquement dans le ring. Et la physicalité, on la ressent quand on voit les catcheurs chuter sur le ring, qui est une planche de bois avec un peu de mousse par-dessus, et voilà, ça, les contacts, on les sent. Et pour ça, il faut avoir une condition physique de folie, en plus du jeu d'artiste, d'acteur, qui est primordial pour un produit télévisé comme la WWE.
Vous parlez de l'expérience de quand on assiste à l'un de ces shows. Tous ne sont pas captés, hein, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, Christophe, la différence entre les différents shows qu'il existe?
Alors, la WWE, c'est une machine à divertir qui est en tournée perpétuelle. C'est un petit peu comme un groupe de rock, mais qui serait en tournée toute l'année. Donc, 52 semaines par an, la WWE présente des shows donc télévisés, 3, 4, 5 fois par semaine selon les différents shows. Diffusé à la télévision aux États-Unis, diffusé sur les réseaux sociaux. Mais à côté de ça, effectivement, chaque soir, une fois que le show télévisé est terminé, ben, ils vont dans une autre ville le lendemain pour présenter des spectacles non télévisés qu'ils appellent des live events, mais qui sont, bien, en quelque sorte, l'équivalent du show télévisé, sauf qu'il n'y a pas de caméra et c'est principalement des matchs. Il y a moins de mise en scène, on fait moins avancer l'histoire, mais on propose un spectacle, et souvent dans des villes un petit peu moins grandes, que ça pourrait être à New York, Los Angeles, mais l'ambiance est la même, l'excitation est la même.
Donc il y a des shows télévisés, les shows hebdomadaires,
oui.
Et il y a un show un petit peu plus grand,
en général, tous les mois.
Oui, c'est une fois par mois, parfois deux fois par mois, mais effectivement, ce qu'on appelle désormais des premium live events, c'est un petit peu le season finale, comme on dit pour les séries télé, c'est-à-dire que les histoires qui sont racontées à la télévision chaque semaine, pendant quatre semaines, eh bien, trouvent une conclusion ou un début de conclusion lors d'un premium live event, ce qui sera le cas à Backlash. Effectivement, il y a des catcheurs qui se cherchent depuis 3-4 semaines à la télévision et qui vont entrer en collision à Backlash, à Lyon, pour finir l'histoire ou écrire un nouveau chapitre plus important.
Tu parlais de business tout à l'heure, Mathias, et tu dis pourquoi. Voilà, typiquement, ce qui a fonctionné au niveau télé, Vince McMahon a eu ce trait de génie, il y a de ça quelques décennies.
C'est l'ancien patron.
L'ancien patron maintenant, en effet. Il y a des décennies, il a dit comment je peux faire en sorte de gagner de l'argent, en fait, sur ces fameux, à l'époque, on les appelait les pay-per-view. Bon, ça parle de nous-mêmes, hein. On paye pour voir. Ouais. Ah oui, mais je fais comment ma promo? Donc, en gros, il offrait les fameux shows dont on parle, les Raw, les SmackDown, que l'on peut suivre sur les chaînes du groupe Media One, AB1 et AB Explore, en France et en Belgique. C'est voilà, on fait la promo sur des chaînes qui sont gratuites. Et puis, une fois par mois, à force de dire « Oui, toi, tu m'as trahi, je vais te battre, je vais te piquer ta ceinture, ouais, mais toi, tu as piqué ma femme. »
Je vous rappelle que ces phrases sont prononcées par un commentateur de catch de plus de 25 ans.
Oui, c'est la vie, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que le catch est si populaire, parce qu'on peut, en effet, retrouver des histoires que l'on connaît dans la vraie vie. Et donc, au bout du mois, comme l'a dit Christophe, eh bien, ce show était diffusé, il l'est encore d'ailleurs, sur des plateformes maintenant, ou des chaînes avant, payantes. Et c'est comme ça que le business a super bien fonctionné.
Et pourtant, en France, jusque-là, c'était uniquement des shows sans retransmission télé. Et après une longue absence de 14 ans, il y a eu des shows dans les années, fin des années 80, je parle sous ton contrôle, Christophe.
93, qui a été la dernière tournée avant le 21e siècle.
Retour en 2007, donc, et les médias dépeignent alors un événement presque insolite. Écoutez.
Catch au Zénith de Paris hier soir. Ce sport plutôt confidentiel en France fait fureur aux États-Unis. 6000 personnes hier ont assisté au spectacle, rencontre parfois délirante entre Johnny Nitro et son célèbre masque, ou Carlito et son inoubliable tatouage.
Alors il y a quand même de grosses approximations pour ne pas dire des erreurs.
Quand Philippe parlait de qualité journalistique, on peut se rendre compte que sur le service public, alors je veux bien comprendre que ce ne soit pas un sujet très intéressant pour ces personnes et très important pour elles, mais enfin, on voit effectivement les approximations pour ceux qui connaissent. Évidemment, Johnny Nitro n'a jamais eu de Mars. Et Carlito, bon, son fameux tatouage. Il est peut-être tatoué, elle a peut-être des infos qu'on n'a pas, mais nous, on le connaît pas, son fameux tatouage.
Et j'ai une petite anecdote pour toi, Mathias, et pour les auditeurs d'RTL.
Je commence
nous
à avoir
peur. Nous étions là, donc ce soir-là, au Zénith, et en effet, c'était la folie. Ils avaient tout vendu. Hein. Ils avaient même fait plus de chiffres à l'époque que le merchandising de Johnny Hallyday. Ça, c'est pour aussi la petite histoire. À la fin du show, on est assis, bien sûr, nous, on est assis avec Christophe, on regarde le show comme tout le monde, et il y a une dame qui se rapproche de nous et qui nous dit « Mon fils aimerait prendre une photo avec vous. » C'était Stéphanie de Monaco. Était là.
Oui,
et son fils était fan de catch. Et c'est pour dire que voilà, quand on dit que le catch est populaire au-delà des classes sociales, c'est un parfait exemple, et ça, c'est ce qu'on a vécu pour de vrai.
Et surtout que les chiffres parlent d'eux-mêmes, ça ne s'est plus arrêté depuis 2007. Une cinquantaine de shows, 400 000 spectateurs. On en a fait du chemin en 17 ans, Tom.
Oula, alors non seulement on en a fait du chemin, mais c'est aussi dû au duo que tu as devant toi, Mathias, que le catch est en essor comme ça, parce que comme beaucoup le disent, hein. Tu sais, c'est important les commentateurs. Et encore plus quand ça passe à la télé, parce que c'est même indispensable. Et même pour le dire, il y a encore quoi, même 10 ans, je pense que c'était inimaginable d'imaginer une émission télé WWE en France. C'est un truc de malade quand tu y repenses.
Attention, attention, attention!
Le choc flemme et Pat Bunny qui vient de passer en transfert à la table des commentateurs américains de Raw!
On s'y prépare à un événement comme ça?
En fait, moi, je m'y prépare depuis longtemps parce que ça va peut-être vous paraître prétentieux, mais je ne me voyais pas ne pas y être. Et si c'est possible, ça n'a pas été facile, c'est parce que, aussi bien du côté américain avec la WWE et surtout notre direction de Media One, ils ont trouvé une entente. Encore une fois, c'est pas démago ce que je dis, mais je suis plus content, en fait, pour les fans qui voulaient vraiment qu'on soit là et qui n'auraient pas compris qu'on ne soit pas là que pour moi. Moi, j'étais tellement confiant que ma chambre d'hôtel est réservée depuis le mois de janvier.
C'est vrai.
Oui, oui. Avant l'annonce. Hein. Non, mais...
Oui, il l'a su quelques heures avant, donc il a pris sa chambre, effectivement, bam, direct.
Et après, comment on s'y prépare? Pas plus, pas moins que d'habitude. On se prépare toujours de manière similaire avec Christophe. On fait les choses avec passion. Je pense que ça s'entend, on n'a pas besoin de tricher. Et puis, on le fera, on sera en forme, on sera hyper heureux et certainement ému.
Le vivre d'une façon ou d'une autre. 3 et 4 mai pour WWE SmackDown et Backlash France à la LDLC Arena de Lyon-Décines. Ça fait bizarre hein, de le dire à chaque fois. À la télé, c'est sur AB1, l'émission hebdo exceptionnellement le vendredi avec quelques heures de décalage à 20h55. Mardi 7 mai, pour le premier Premium Live Event, 20h55 également en intégralité. Et c'est commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Merci beaucoup d'avoir été les invités de RTL.
Merci à toi, Mathias.
Merci, Mathias.
Tom Larufa, c'était un honneur de t'avoir. Merci d'avoir pris le temps.
Bah, c'était un plaisir pour moi et chaque fois de vous retrouver. Bon, toi, Mathias et Philippe et Chris, que j'adore et que je connais bien. Bon, un peu plus Philippe, je l'aime plus que Christophe, mais ça, je le sais. C'est toujours